Bienvenue à tous sur la route 66, l'émission des Music Roots sur Radio RDL 103.5 FM avec Jean-Luc et David.
Et l'artiste que nous recevons aujourd'hui ne possède pas encore un nom très connu du grand public, alors que vous êtes probablement des dizaines de milliers, voire plus, à l'avoir vu sur scène, entendu sur disque ou aperçu dans des émissions de télévision. Et pour cause, il s'agit de l'un des bassistes français les plus réputés actuellement, artisan de l'ombre auprès de grands noms des Music Roots américaines, anglo-saxonnes ou de vedettes de la chanson française. Son parcours professionnel est un modèle du genre et le pousse aujourd'hui à mener à bien un projet personnel d'envergure, à savoir sortir un disque solo, ce qui est pour un instrumentiste un exercice de style toujours assez particulier et difficile. Alors c'est les raisons qui l'ont poussé à tenter une telle aventure que Franck Bedez va nous dévoiler dès maintenant dans Route 66. Bienvenue dans ton émission, Franck, et merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation.
Merci beaucoup et puis bonsoir à tous.
Alors, comme tu le sais, avant d'entamer de plein pied le vif du sujet, à savoir la sortie de ton nouvel album, premier album, je tiens à le préciser, nous allons nous passer deux autres nouveautés, comme c'est de coutume dans l'émission. Nous allons commencer immédiatement avec une belle initiative du label Delta Groove, qui a organisé une revue spéciale réunissant les principaux artistes du label dans un club du fin fond du Delta du Mississippi, Ground Zero Blues Club. Il en résulte deux CD live dont je vous propose immédiatement un premier extrait. Il s'agit de ce qui est pour moi le meilleur groupe de blues estampillé West Coast, j'ai nommé The Manish Boys, accompagné par l'un des anciens membres du mythique groupe de Chicago, The Ace, à savoir Monsieur Bobby Jones. Le morceau qu'on se passe pour ouvrir l'émission est Mary Jane, extrait de Live at Ground Zero, volume 2. Il faut le préciser, c'est parti tout de suite pour une bonne heure de musique.
But I got to try it one more time. Listen, you used to make love to me, baby, both day and night. Without that good loving now, mama, I don't feel alright. Mary Jane, Mary Jane, can't you hear me calling you? Woo! When I don't get that loving from you, baby, I feel so sad.
Come on, Kirk. Come on, baby. Woo!
Yeah, baby.
just a little bit, baby. Woo!
Salut, c'est Little Bob, vous êtes sur RDL, la radio, et you get your kicks on Route 66.
Running after the sunlight, never feel a buzz in heaven, and I never realize I was running after happiness, never believing without sacrifice, and I run, and I run. That I always cross so fast.
Retour aux sources, c'est-à-dire au rock'n'roll des années 70 pour Little Bob, dont je viens de vous proposer en exclusivité un extrait du futur album qui sortira le 22 mai prochain et qui se nommera Time to Blast, disque dans lequel Bob fait un grand bras d'honneur à l'injustice, aux inégalités, à l'avidité, à la cupidité, au racisme et au cynisme ambiant. Nous en reparlerons évidemment d'ici quelques temps dans l'émission, puisque je compte bien aller à la rencontre de Bob pour une nouvelle pour un nouvel entretien qui fera évidemment l'objet d'une émission spéciale. Mais le moment est venu tout de suite de retrouver notre invité du jour. Ça me fait vraiment particulièrement plaisir qu'il soit là, c'est Franck Bedez. Ça fait assez peu de temps qu'on se connaît personnellement, alors évidemment de mon côté j'en avais déjà entendu parler à de nombreuses reprises, et puis j'avais déjà eu l'occasion de le voir sur scène et d'admirer son talent immense. Alors j'ai profité de l'occasion, d'une occasion en or qu'il me fallait saisir, hein, puisque tu sors ces jours-ci ton premier album solo qui s'appelle Investigation, je le dis en français.
Oui, c'est en français.
C'est absolument, en fait, ouais. Il faut le dire. Ouais. C'est parfait. Donc nous aurons l'occasion d'en parler très en détail durant cette émission. Mais auparavant, bien sûr, je ne résiste pas à l'envie de vous en diffuser un premier extrait. Et puis là aussi, on en parlait justement un petit peu hors antenne. C'est pas pour rien que j'ai choisi d'ouvrir cette séquence par ce morceau, que tu as également choisi pour ouvrir ton propre album. Ça s'appelle Bass Booster, hein, et donc là tout est réuni, hein, puisque c'est vrai que sur cet album on sent très bien que tu mets un point d'honneur à mélanger à la fois des titres accessibles au plus grand nombre, mais également des morceaux plus techniques, vraiment dédiés aux aficionados de la basse. Alors c'est vraiment un travail, une approche que tu as voulu faire au départ?
C'était pas spécialement prévu comme ça. C'est vrai que quand on fait l'ordre d'un disque, il faut toujours faire attention à ce que les tempos se suivent bien, à ce que les tonalités aussi ne se mélangent pas, et qu'il n'y ait pas trois morceaux qui se suivent avec la même tonalité. Et puis finalement, celui-là paraissait évident comme un premier titre. C'est vraiment le morceau d'ouverture, quoi.
Ok, bah, ce qui le permet, ce morceau, on va le dédier à tous les bassistes en herbe qui nous écoutent.
Avec plaisir.
Parce que c'est vraiment une très très belle démonstration. Et puis là, tu remets vraiment les pendules à l'heure avec ce titre et tu montres ce qu'est un vrai bassiste. C'est parti. We'll be right back. Bass Booster, premier extrait de l'album Investigation de Franck Bedez. Alors toujours hors micro, hein, on discutait beaucoup et c'est vrai que vous l'avez peut-être constaté, hein, mais quelques secondes avant que le morceau se mette réellement à partir, il y a un petit bruit de checker comme ça. Alors ce checker a une histoire, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur cette anecdote?
Mais en fait tout simplement c'était le guide pour que le batteur puisse jouer dessus, puisse enregistrer par la suite. Et finalement, au montage définitif du morceau, je me suis dit, tiens, mais c'est rigolo comme intro, parce qu'on se demande un peu ce qui se passe, et puis il y a une espèce de tension comme ça au début du morceau, plutôt que de rentrer par la batterie tout de suite, je dis, allez, je vais le laisser.
Voilà. Et puis, tu parles de batteur, mais de quel batteur, hein, parce que tu t'offres le luxe sur ce disque de compter à tes côtés, si je puis m'exprimer ainsi, un certain Steve Ferron, qui est un géant de la batterie, un artiste américain dont j'aimerais que tu me parles un petit peu.
Mais c'est un de mes batteurs fétiches, si c'est pas le batteur que vraiment je préfère dans tous les artistes qu'il a accompagnés, mais voilà, c'était en plus le style de morceau qui lui collait vraiment à la peau, et je me suis dit, bah, pourquoi pas lui proposer de le jouer, tout simplement. Donc on en parlait justement hors antenne, c'est souvent les grands artistes qui sont les plus accessibles et les plus sympas. Donc j'ai réussi à rentrer en contact avec lui, à lui proposer les deux démos. Et il m'a répondu tout simplement, t'en as besoin pour quand? Voilà, c'était aussi simple que ça. Et ben voilà, on a fait ça un petit peu à distance, malheureusement, puisque il était en tournée avec Tom Petty et les Heartbreakers. Et j'ai donc enregistré une trame rythmique et déjà une partie de guitare et de clavier qui pourrait donner une bonne idée de ce que donnerait le morceau au final. Et je lui ai envoyé ça à Los Angeles, il m'a renvoyé les fichiers de batterie dans l'autre sens. Et voilà, le morceau s'est construit petit à petit, quoi.
Pour les gens qui ne le connaissent pas, Steve Ferron, est-ce que tu peux me dire avec qui il a joué? Avec tout le monde quasiment, tu citais Tom Petty, mais il y en a
voilà,
tant d'autres.
Voilà, c'est un des batteurs les plus enregistrés. C'est impressionnant, là. Mais pour citer quelques noms, oui, il y a Eric Clapton, il y a Chaka Khan, il y a Average White Band, Duran Duran, voilà, je dois en oublier...
Franck Bedez.
J'ai eu beaucoup de chance qu'il accepte, c'est vrai que c'est un beau cadeau.
Ok, alors on va faire un petit flashback et puis on va un petit peu revenir sur tes origines musicales, à savoir quand le virus de la musique vraiment s'est emparé de toi, parce que je crois que tu as toujours grandi finalement dans un environnement très musical, puisque ton père est à l'origine du studio Crystal.
Voilà, mon père a ouvert le studio Crystal en 1976 et je suis né en 76, donc j'ai grandi un peu dans les studios. Et il y avait évidemment plein d'artistes qui passaient pour enregistrer, aussi bien dans le blues, le jazz, le rock, la musique classique, la chanson pour enfants, enfin il y avait vraiment de tout. Et c'est toujours la basse qui m'a attiré, quoi. J'ai tout de suite eu un flash pour cet instrument.
Et ça t'est venu justement en côtoyant des bassistes, en les voyant se produire en studio?
Oui, en les voyant jouer, le son aussi me plaisait beaucoup. Et puis j'aime bien le rôle de la basse en fait, j'aime beaucoup ce pivot qu'il y a entre le rythme et l'harmonie que donne la basse, c'est vraiment un rôle que j'aime bien.
Et puis, ce qui me touche toujours, moi, chez les bassistes, c'est que parmi ceux que je connais, il y a toujours un dénominateur commun qui est vraiment l'humilité. C'est toujours des gens qui cherchent à se mettre au service d'autres artistes sans chercher forcément à devenir le leader. Et on le ressent d'ailleurs à l'écoute de ton album, hein, puisque c'est un disque que tu as enregistré sous ton propre nom. Mais finalement, bien souvent, tu sais t'effacer derrière tes invités.
Merci beaucoup. Ben, je crois que ce qui est important, c'est de faire de la musique, c'est pas juste de faire de la démonstration instrumentale. J'aime beaucoup, il peut y en avoir, mais si c'est que ça, ça devient finalement ennuyeux, quoi. Donc, le but de l'album, c'était aussi un peu de me réaliser en tant que compositeur, arrangeur, gérer le projet de A à Z et finalement aussi comprendre ce que ressent un artiste quand il produit son disque, toutes les étapes par lesquels il passe, parce que finalement, quand moi je vais enregistrer en tant que bassiste, je m'occupe que de la basse. Et là, du coup, bah, j'ai eu à gérer les agendas, à appeler tout le monde, produire en studio, diriger la séance, voilà, tout ça c'est bien, c'est formateur.
Et pour revenir sur ton cursus, hein, il y a aussi cet amour du son, hein, que tu as dû hériter
de studio,
ton père,
ouais.
Évidemment, puisque je crois que par la suite tu as souhaité devenir sonorisateur professionnel. En tout cas, tu as fait des études pour ça, tu as notamment travaillé au TNS.
Au TNS, oui, j'ai fait une formation de régisseur son, voilà, sous la direction de Pablo Bergel, et ça m'a donné un petit peu toutes les ficelles comme ça de la prise de son, de comment câbler, de les bons choix de micro aussi, etc. Tout ça, c'est important finalement pour le résultat final. Ouais.
Aujourd'hui, tu accompagnes vraiment énormément de grands artistes, hein, d'artistes confirmés. Mais est-ce qu'il t'arrive encore un petit peu de t'impliquer dans le son lorsque tu vas faire des soundchecks avec ces chanteuses ou chanteurs est-ce qu'il t'arrive de temps en temps de donner un petit coup de main au
Ah oui, c'est vrai que ça arrive parfois. Et quand il y a un souci technique, on va toujours donner un petit coup de main pour essayer de trouver ce qui ne va pas. Oui, ça m'arrive toujours, ouais, bien sûr.
Et à quand remontent vraiment tes débuts professionnels en tant que bassiste?
Après mon bac.
Donc, c'était fait ton bac et après...
Voilà, c'était fait ton bac d'abord. Donc voilà, j'ai passé mon bac économique et social en 94. Donc ça, c'était fait. Et ensuite, j'ai commencé en fait avec Lionel Wendling dans le groupe Alien Playboys.
D'accord.
En fait, voilà.
Okay.
Lionel cherchait un nouveau bassiste et ça a été mon premier groupe professionnel.
Lionel Wendling, qui est un très célèbre joueur de pedal steel guitar, hein, parmi les plus renommés en France.
Ouais.
Et donc, tu étais plutôt dans un registre country music. Alors.
Absolument, ouais. Ouais. C'était d'ailleurs une très bonne école pour commencer. C'est une bonne école de tempo pour un bassiste et de se mettre au service de la musique, justement.
Ouais. Et c'est une musique que tu as découvert à ses côtés ou alors tu en écoutais déjà auparavant?
Non, c'est vrai que...
Quelles étaient vraiment les premières musiques qui t'ont touché?
Beaucoup de choses, parce que du fait du studio, il y avait vraiment beaucoup de styles différents. Donc je pourrais pas vraiment dire comme ça que j'ai accroché sur un style en particulier. J'ai toujours aimé toutes les musiques issues du blues, ça c'est clair. Tout ce qui est soul, voilà, ça m'a vraiment tout de suite plu. Après, j'ai eu une période très new wave pendant mon adolescence, basse au Mediator, tous les groupes, voilà, The Cure, Duran, puis des groupes plus sombres. Et j'écoutais beaucoup Toto aussi, Chicago, je crois, une période, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est vrai qu'avec Lionel, bah, j'ai découvert toute la musique américaine issue de Nashville et c'était très très formateur. D'autant que par la suite, on a accompagné des artistes américains qui venaient faire leur tournée en Europe. Et là, bah, il fallait connaître le style, quoi.
Et là, de sacrés artistes quand même, hein, puisque sur ton CV, tu peux quand même te vanter d'avoir accompagné l'une des reines du rock'n'roll, peut-être l'une
Wanda
des premières
Jackson.
Chanteuses de
ouais.
rock'n'roll de l'histoire, Wanda Jackson, dont Elvis Presley était très amoureux à une époque. Linda Gay Lewis, la sœur du Killer, de Jerry Lee.
Oui.
Est-ce que tu as des anecdotes un petit peu comment se comportent ces femmes au quotidien, au jour le jour, en tournée?
Ah, c'était très chouette. Je me rappelle une anecdote avec Wanda, c'est quand elle est arrivée pour la première fois en répétition. Les répétitions étaient souvent très courtes, puisque pour des raisons logistiques, ils arrivaient la veille ou l'avant-veille, pas beaucoup plus. Donc on recevait les CD avec les titres à travailler, une setlist approximative. Et quand ils arrivaient, bah, il fallait être prêt et puis il fallait démarrer. Mais au-delà de cette pression-là, elle est arrivée et a commencé tout simplement par nous demander nos prénoms dans le local. Et il y avait finalement ce feeling, bah voilà, on est là, on est ensemble pour faire de la musique, et puis il n'y avait plus de renom, de quoi que ce soit, ni d'ego, et c'était juste, bon bah voilà, il faut qu'on monte un répertoire, parce que demain on est sur scène, et puis voilà, en avant quoi.
Et chanteuse étonnante, hein, parce que je l'ai vue encore il y a quelques années, bon elle était déjà quand même assez âgée,
ouais.
Et c'est vrai que lorsqu'elle monte sur scène, et qu'elle se met devant le micro, et que ça démarre, bah c'est comme dans les disques, hein, c'est comme dans la version originale de Let's Have a Party, y a toujours cette voix presque de gamine,
ouais,
j'ai envie
absolument.
De dire, c'est vraiment impressionnant.
Elle n'a jamais perdu. Ouais.
Ouais, ouais. Ouais. Alors tu parlais de ton amour de la soul music, un amour qui se perpétue dans l'album Investigation, aux côtés notamment d'un autre chanteur invité, à savoir Ian Brown.
Mm-hmm.
Aussi, est-ce que tu pourrais un petit peu me parler de lui?
Ian, tout simplement, c'est un chanteur anglais pour qui j'ai passé une audition il y a quelques années, et on a tourné en Angleterre ensemble. Et c'était le chanteur idéal pour ce titre, quoi. Du coup, je pouvais faire ce titre parce que il fallait un chanteur anglais avec un phrasé bien anglais, quoi.
Et ça s'appelle Take Me to the River, Frank Bedez, avec en guest Monsieur Ian Brown sur le 103.5 FM.
Won't you tell me
Chanson française aux côtés de Nicole Croisi, je crois beaucoup, avec Ian Foley, de la country music, aux côtés de Lionel Wendling, du rock and roll, aux côtés de Linda Gale Lewis et de Wanda Jackson, de la soul avec Mr. Ian Brown. Comment fais-tu pour passer d'un style à l'autre comme ça? Ça te demande un travail, une préparation particulière?
Non, c'est tous les styles de musique que j'aime en fait. C'est un peu ça le disque. C'est, je voulais faire plaisir un peu à jouer tout ce que j'aime, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Par rapport à ce morceau, Take Me to the River, c'est un morceau de Al Green au départ, qui avait été repris, je trouve, avec brio par les Talking Heads, qui a fait une version géniale. Et il y a un super riff de basse. Donc j'ai eu envie de le refaire sur le disque, quoi.
D'accord. Et est-ce que toi qui es très demandé maintenant, est-ce qu'il t'arrive de temps en temps, ou est-ce qu'il t'est arrivé par le passé de devoir accompagner des gens à contre-cœur? Sans
non.
Les citer.
Alors, non. Vraiment, non.
Ou alors,
jamais.
Tu es au contraire curieux de musique et tu serais prêt à t'aventurer dans n'importe quelle faille pour...
De toute façon, bien sûr. Non, vraiment, j'ai jamais eu de mauvaise surprise à ce niveau-là. Je crois déjà à partir du moment où on vous contacte, où on vous appelle, c'est qu'on a envie de jouer avec vous. Donc, à partir de là, si les deux parties mettent de la bonne volonté, ça peut que bien se passer, quoi.
Alors, à force d'être sollicité par les plus grands pour les accompagner, tu as également été amené à participer à des masterclass,
oui,
aux côtés de grands batteurs. Alors là, évidemment, on va l'évoquer, hein, puisque j'ai noté des noms, Greg Bissonnette, qui n'est pas le premier venu.
Non, grand batteur pareil de Los Angeles d'ailleurs, ouais, qui joue avec Ringo Starr en ce moment.
Le parrain français, j'ai envie de dire, Christophe Deschamps.
Oui, ça c'est un beau souvenir.
Ouais. Et j'ai noté également l'un de mes batteurs préférés. On en parlait également hors antenne, hein, mais le voir avec Steve Winwood, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Ou Alfredo Reyes Jr. Alors là aussi, comment ça s'est passé avec tous ces gens-là?
Alors, les accompagnements de ces masterclass, je les dois à Mazid Menabi, qui dirige la baguetterie à Strasbourg, qui était un des parrains à chaque fois de ces masterclass. Et quand les artistes arrivaient, ils proposaient toujours d'avoir des musiciens locaux pour l'accompagner. Et ça s'est toujours bien passé, ils ont toujours accepté, et c'est comme ça en fait que j'ai pu les accompagner.
Et puis autre belle rencontre qui dure maintenant depuis un moment, on ne pouvait pas ne pas parler d'elle aujourd'hui dans l'émission, c'est avec Lisa Dobby.
Ah ouais.
Que tu
ça fait bientôt 8 ans maintenant.
8 ans ouais. Avec Lisa.
Ouais, ouais. 8e année là.
D'accord, et toujours une cohésion parfaite, peut-être plus que jamais dans son groupe. Hein.
Ah là, en ce moment, c'est vraiment super. Ouais.
Tu reviens d'une tournée allemande à ses côtés. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça s'est passé sur la route?
Ah bah, là, ce qui est chouette, c'est qu'en plus de l'aventure musicale, c'est une aventure humaine avec Yannick Eicher à la guitare et Jérôme Spillener à la batterie. Voilà, on s'entend tous très bien, donc c'est un vrai plaisir d'être sur la route et sur scène, quoi.
Le hasard a bien fait les choses, hein, puisque j'ai programmé les Manish Boys en début d'émission.
Oui.
Et tu me disais que tu allais avec Lisa participer à une très très belle soirée blues en Suisse le 20 juillet prochain à Sierre, c'est ça?
Voilà, c'est le 20 juin en fait, c'est dans un mois, on joue à Sierre en Suisse. Et donc il y a Lisa qui sera suivie des Manish Boys et suivie de Gary Moore.
D'accord, donc encore de belles rencontres en perspective.
Ah, j'espère, oui, j'espère.
D'accord, bah je ne résiste pas à la tentation et je vous propose le 5e titre qui figure sur cet album qui s'appelle Investigation, un duo avec Lisa Dobby et ça s'appelle Baby Smile.
I've got
vous écoutez RDL sur le 103.5 FM, une station que vous pouvez également entendre via le net et le site www.rdl68.free.fr. Je profite pour vous rappeler l'adresse du site de l'émission Route 66 sur la route66.free.fr où vous retrouverez pléthore de documents, que ce soit des transcriptions d'interviews, de reportages, des vidéos, des émissions en téléchargement, j'en passe et des meilleurs. Et comme il se doit, une petite place sera bientôt faite à notre invité du jour par le biais d'un reportage qui lui sera consacré afin de le remercier pour sa venue dans l'émission.
Merci.
Et notre invité du jour, c'est évidemment Franck Bedez, que nous recevons à l'occasion, j'en bafouille, j'en perds tous mes moyens, de la sortie de son disque Investigation, dont il va continuer à nous parler, et justement peut-être revenir sur ce duo avec Lisa Dobby. Tu me disais des choses intéressantes hors antenne, puisque c'est vrai que c'est une chanteuse qu'on connaît beaucoup par son punch, et là tu as vraiment souhaité à ce qu'elle susurre ces quelques mots qu'elle a écrits elle-même.
Oui, alors en fait l'idée c'était plutôt d'avoir une voix douce, et c'est vrai que quand on a une chanteuse comme Lisa, dont on connaît le talent et qui peut envoyer ce qu'on connaît sur scène, on aurait tendance à l'appeler pour ça, et là elle a accepté de se prêter au jeu de justement plutôt chanter avec beaucoup de sensibilité. Le texte parle en fait de l'enfance, et je lui ai demandé plutôt d'exprimer ce qu'une mère pourrait dire finalement à son fils, et de chanter de cette manière-là la chanson, et elle l'a fait, voilà, et donc ça donne ce qu'on a entendu.
Tu as également étroitement collaboré à l'écriture des morceaux qui composent cet album, ce qui concerne les compositions, en tout cas pour la plus grande partie.
Oui, ouais, sauf les textes qui ont été écrits par Lisa et Ian, et là d'ailleurs là c'était... j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des textes écrits par des artistes dont c'est la langue, c'est-à-dire l'anglais. C'est toujours difficile d'écrire correctement quand c'est pas sa langue. Et, donc là, j'ai aussi eu beaucoup de chance.
Et c'était la première fois que tu composais ?
Des chansons, oui. Oui, quand même. Ouais. Souvent, j'ai composé des instrumentaux dans le cadre d'un groupe, mais des chansons, ouais, c'est la première fois.
D'accord. Alors, pour en revenir également à ton actualité, il faut savoir, en tout cas, là, je fais une petite parenthèse pour tous les habitués des salles obscures, que tu t'es également lancé dans la musique de film en tant que musicien intervenant, puisqu'on a pu t'entendre notamment sur la BO du film réunissant les deux Gérard, hein, Junio et Lanvin, c'était envoyé très spécial. Ouais. Et puis très prochainement, on pourra t'entendre en allant voir le film Le Petit Nicolas.
Voilà, qui sort en septembre.
Ouais, donc là, c'est par quel biais que tu as intégré
C'est le guitariste Michel-Yves Cauchemann avec qui j'avais fait la tournée Liane Folie, qui m'a recommandé auprès du compositeur, et on s'est retrouvés tous en studio en Belgique pendant 3 jours pour enregistrer les basses, batterie, guitare, mandoline, qui étaient après suivies par des séances d'orchestre, de voix, mais pendant 3 jours on a fait donc toutes les basses avec le compositeur Klaus Badelt.
D'accord. Le temps défile, je vais absolument passer un maximum de titres de cet album, hein, je vais vraiment le faire découvrir aux gens, et je ne résiste pas une nouvelle fois à la tentation d'écouter Ian Brown pour le deuxième titre qu'il t'a offert sur ce disque qui s'appelle All That I Need. Go.
Young man now, but I'm getting older.
Frank Baudès que vous écoutez sur le 103.5 FM, mais également sur www.rdl68.fr et non .free.fr comme je l'ai dit précédemment. On revient tout de suite à cette interview. Alors, on parlait de composition tout à l'heure. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur cet album t'a donné l'envie de continuer dans cette voie-là et pourquoi pas de composer pour les autres ?
Ah, ce serait avec plaisir. C'est vrai que... Oui, j'aimerais beaucoup. Ouais.
Alors, je connais ta discrétion naturelle, ton humilité légendaire dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'était quand même assez surprenant tout d'un coup de te voir débarquer avec un album sous ton propre nom, un album solo. Pourquoi as-tu décidé de franchir le pas ?
À vrai dire, c'est une surprise pour moi aussi, parce que je ne pensais pas enregistrer un album sous mon nom un jour. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours composé dans le cadre d'un groupe, ça me convenait assez bien. J'aime bien l'idée que chaque musicien apporte sa pierre à l'arrangement. Et finalement, au bout d'un moment, quand on travaille son instrument, qu'on écrit ses morceaux, on finit par avoir plein de bribes comme ça sur le disque dur, et ça n'aboutit jamais. Alors je me suis dit, c'est quand même dommage de jamais terminer ça correctement. Et c'est un petit peu comme ça qu'on vient se dire, bon bah voilà, je vais faire mon disque et je vais le faire le mieux possible.
Et l'enregistrement s'est étalé sur combien de temps ?
Alors, sur près d'un an en fait. Mais comme il y a beaucoup d'invités sur le disque, il y a près de 25 artistes différents, c'est plus un hasard d'agenda qu'un choix personnel, le temps de réunir tout le monde au même moment, d'avoir la disponibilité du studio. Voilà, ça a duré près d'un an. J'ai commencé à enregistrer en janvier 2008. Et voilà, le disque vient de sortir.
Et comment s'est fait le choix des invités ? C'était que des gens que tu connaissais auparavant, dehors de Steve Ferron ou...
C'est que des gens que je connaissais avant, et j'ai essayé sur chaque titre d'associer des personnalités, des sensibilités musicales, pour que, d'une part, le musicien prenne du plaisir à jouer le titre, et aussi pour qu'il y ait une atmosphère particulière qui se dégage, quoi.
Est-ce que tu serais prêt à aller encore plus loin et à faire tourner ce disque sur scène ?
Ah, ça serait difficile, je crois, parce que j'ai vraiment essayé d'amener sur chaque titre le musicien pour lequel le titre est fait, quoi. Donc si maintenant il fallait tout faire avec une seule équipe de musiciens, je ne sais pas si j'arriverais à diriger aussi bien l'équipe.
Est-ce que tu as un petit regret en ce qui concerne l'enregistrement et surtout les invités, quelqu'un qui n'aurait pas pu se libérer, qui n'aurait pas pu participer au projet ?
Non, tout s'est bien passé. C'est vrai que j'avais aussi un petit peu le luxe du temps puisque c'était un peu le projet pour me faire plaisir. Donc voilà, j'aurais attendu que la personne soit libre pour terminer.
Et le travail de production, c'est quelque chose qui à terme pourrait t'intéresser, faire travailler d'autres artistes, d'autres groupes, les produire en studio ?
Avec du recul, c'est quelque chose de très délicat parce que finalement, on fixe un instant, on fixe une direction. Donc il faut vraiment pas se tromper et donner à l'artiste finalement l'univers qui lui correspond, quoi. Donc oui, mais il faut prendre ça très au sérieux en fait.
Est-ce que tu as des projets en dehors des tournées avec Lisa notamment, est-ce qu'il y a des gens avec lesquels tu n'as pas encore travaillé qui sont entrés en contact avec toi?
Non, pour l'instant pas, je suis en tournée avec Lisa, donc c'est vrai que ça m'occupe là pour jusqu'à la fin de l'année. Je joue aussi avec le groupe de Salsa Sonando. Je vais faire quelques remplacements chez Philippe Laville en juin, ça c'est arrivé tout récemment. Et en octobre, j'enregistre le nouvel album du pianiste Grégory Hoth, voilà.
D'accord, qui est également un artiste alsacien, je crois.
Oui.
Et qui participe à ton album.
Et qui est sur un des titres de l'album, ouais.
Aux côtés notamment d'un autre grand pianiste régional qui est Manu Bock.
Oui. Le grand spécialiste du blues rock.
Ouais, qui est un musicien exceptionnel, un très bon organiste, un peu très inspiré par Dr. John et ses sons de la Nouvelle-Orléans.
Voilà, et qui sait faire sonner un orgamone comme personne.
Ouais, et il a de qui tenir, hein, puisque c'est le neveu, je crois, de Jimmy Bock, oui. Hein, qu'on connaît très bien ici dans l'émission. Hein, Jimmy Bock, un pianiste de renom dans la région qui a pendant très très longtemps accompagné Chuck Berry lors de ses tournées européennes. Un souhait particulier, sinon, pour les mois à venir ?
Non, que ça continue comme ça, c'est très bien.
Tu es un artiste épanoui et heureux.
Ça se passe très bien, oui, donc pourvu que ça dure, on touche du bois.
Comment pouvons-nous se procurer cet album ?
Alors j'ai créé une page internet, tout simplement www.frankbedes.com. Et voilà, il y a une page d'achat très simple, on peut commander le CD et il est livré directement. Ou alors pour ceux qui ont iTunes, le disque est disponible sur iTunes, voilà.
Okay, ben je vous recommande vivement d'aller faire cet achat ô combien malin. puisque je crois que c'est un très très bon disque, hein. Je peux même vous le confirmer, je l'ai écouté dans son intégralité à plusieurs reprises, et c'est vrai que c'était une très agréable surprise, et je vous recommanderais plutôt d'acheter l'objet, hein, plutôt que de le télécharger via iTunes, parce que là aussi, il y a un vrai travail de fait sur le packaging, puisque le disque est accompagné d'une bande dessinée.
Oui, Christophe Depoire, le graphiste, m'a fait une vraie BD autour de l'histoire du disque, en fait, une bande dessinée en 3D.
Ouais, et qui se passe un petit peu comme ça, dans une atmosphère très sombre.
Oui, à New York, voilà, avec un personnage qui s'appelle Mr. Basic, justement, voilà, un ancien héros du funk.
Il y a un morceau qui s'appelle Mr. Basic, voilà. Justement, sur le disque. Donc ça, c'est un personnage de fiction complètement.
Complètement, oui.
Ouais, ce ne serait pas légèrement inspiré de la vie d'un célèbre bassiste alsacien.
Non.
C'est de la fiction totale.
C'est de la fiction totale.
Ok, le moment va être venu de conclure cette émission malheureusement, donc je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation.
Merci beaucoup.
Je voulais également remercier quelqu'un qui nous a fait nous connaître davantage, une certaine Sandra, alors je ne sais pas si elle nous écoute, mais je la remercie vivement, hein, parce que grâce à elle, ou sans elle en tout cas, je serais passé à côté de cette opportunité, donc merci à toi Sandra. Prochaine date en ce qui te concerne
Prochain concert, c'est avec Lisa. Voilà, ça sera donc, si je ne me trompe pas, c'est justement pour avec Gary Moore, voilà.
Avec Gary Moore, donc ça nous mène au mois de juin, et c'est pas loin d'ici, hein, pour
Les c'est pas loin d'ici.
Ça sera en Suisse, donc c'est une date à retenir sur vos agendas. Je rappelle également que tu as une page MySpace.
Oui, myspace.com/Franck Bedez.
Voilà, et je rebondis tout de suite pour donner les coordonnées de l'émission en ce qui concerne Internet sur laroute66.free.fr et également, je vais faire une petite pub perso, hein, j'ai également un myspace.com/davidroute66. Je te laisse un petit mot de la fin.
Écoute, merci beaucoup pour cette invitation et puis à bientôt, j'espère.
Mais le plus vite possible, en tout cas, je le souhaite, que ce soit sur la route ou ici dans le studio. On se retrouve, comme il se doit, la semaine prochaine avec une émission qui n'est pas encore tout à fait établie pour le moment, donc je n'en parle pas. Mais sachez d'ores et déjà que vous nous retrouverez sur les ondes du 103.5 dans 15 jours avec, encore une fois, un invité exceptionnel. L'émission a été enregistrée il y a de cela quelques jours. C'est avec Monsieur Amar Sunday, qui m'a fait l'amitié de passer et d'interpréter quelques titres en live qui m'ont réellement donné le frisson avec sa superbe guitare 12 cordes. Merci à toi Franck,
merci beaucoup.
À très bientôt. On se quitte en beauté et en musique avec un ultime extrait de ton album Investigation, un titre instrumental Funk and Stars. D'accord avec mon choix?
Ah oui, et comment?
Ben on se quitte en beauté alors. Salut à tous et encore merci Franck.
Merci.
Bye.